Croyez-le ou non, mais Neo et Trinity sont vivants et sont bloqués dans un déjà-vu de Matrix 1 spécialement créé pour eux. Dans cet endroit, ils cohabitent mais ne se connaissent pas. Fantôme, reconstruction de la matrice ou simple résurrection due à un énième reboot pour un énième recommencement ? Difficile de le dire, mais une chose est sûre, Neo ne peut pas être Neo sans Trinity comme l'inverse. Pendant ce temps, du côté du mal, Emmanuel Macron remplace Hugo Weaving dans le rôle de la menace de la trilogie en la personne de l'agent Smith. Un homme important mais méprisant. Coïncidence ? Ainsi, dans ce monde, Neo retrouvera des traces de sa vie passée dans le métaverse où quand Yaya l'abeille, une version de Morpheus plus jeune, l'invitera à une séance privée du premier Matrix. D'autant plus que dans ce hub, le code matricien est visible de tous. Vous avez mal à la tête ? Nous aussi. Alors imaginez ce Neo et cette Trinity emprisonnés dans la matrice et à qui on triture les câbles dans le monde réel. Bref, suivez le lapin blanc et faites de nouveau ce choix. Douille rouge ou douille bleue ? Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après s'être fait des films avec la BA du dernier Lana Wachowski, sans sa sœur, dans l'épisode numéro 71. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Nos avis, ceux de la presse ? C'est parti pour le match retour de Matrix Resurrections.
DJ, kick that shit !
Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Matrix Resurrections, le dernier film de Lana Wachowski. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa BA, nous avons vu le film et sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de hackers perdus. Il était présent avec nous dans l'épisode précédent, Adopi, content de te revoir. Salut Clément.
J'ai encore mis des amendes toute la semaine.
Mytho.
Morphalus qui était Kevin.
J'ai très faim.
Qui est Kevin?
Tu reviens des fêtes enfin là-haut.
J'ai très faim.
Notre hacker météo Weaver.
Il va neiger demain. Tu sais, c'est pas la dernière.
Et non Weaver, toujours pas. Tu es toujours à contre-temps.
Chier.
Selon l'oracle. Et d'autres hackers qui viennent de rentrer dans la bande, qui n'étaient pas là pour la BA. Salut.
Bonjour.
Clémence, un nom de hacker?
Oui, je suis Hartley, hacker à vif.
Alors voilà.
Ça fait des jeux.
Spécialisé dans le médical.
Dès 2022. Et William.
Oui, je suis utilisateur beige, le copain des utilisateurs blancs.
Une rêve que vous ne pouvez pas encore comprendre.
Et vous comprendrez, vous inquiétez pas. Bonjour mes petits hackers, bonne année.
Bonne année.
On va dire souvent bonne année cette année.
Donc qui est chaud pour hacker 2022, qui pue le Covid ?
Comment il lance ça ?
Ah, l'ambiance là tout de suite. Hein.
Nous a ramené à la dure réalité.
Bonne année auditeurs, auditrices, plein de bonnes choses. Écoutez, bonne chance pour 2022. Voilà, comme j'aime le dire. On va tout de suite se lancer évidemment dans ce match retour qui va nous prendre la tête. Hein. On vous prévient tout de suite, ça va être très compliqué d'en parler, mais on va quand même en parler étant donné que le film est un peu bordélique. Mais évidemment, il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça dès le début en appelant El Calculator qui va nous dire un peu où est-ce qu'on se situe, en zone de spoil ou pas. El Calculator, salut.
Salut les hackers.
Salut
El Calculator.
Bonne année El Calculator.
Bonne année les hackers.
Bonne année.
Il doit se sentir en danger entouré de tant de hackers.
Bonjour.
Tout à fait.
T'inquiète, je lui ai mis les meilleurs partenaires.
Mais j'ai le meilleur Norton, le 2003.
Le Edward Norton.
Le Edward Norton.
Personne ne l'a celui-là. Alors où est-ce qu'on va situer pour le spoil dans cet épisode El Calculator ?
Le taux de spoil sera de... 100%.
Ouais bah oui, forcément 100% de spoil pour Matrix Resurrections, parce que déjà c'est une suite et puis Matrix c'est beaucoup trop complexe pour qu'on en parle sans spoiler. Surtout ce film, on va tout de suite vous dire ce qu'on en a pensé, mais je pense que vous captez un peu l'ambiance de ce match retour un peu perdu quoi. Notamment à mon avis celui qui va être le plus perdu, ça va être celui qui va résumer là tout de suite.
Oh putain. La roue de la malchance.
Ah
ouais, c'est un dieu qui ne me désigne pas.
Pour qui c'est la roue de la malchance.
Inch'Allah.
Calculateur, évidemment tu lances la roue.
Je la lance.
Afin de désigner au hasard qui va résumer
qui
le film, le pauvre ou la pauvre. C'est parti.
Roue de la chance. Clément. Putain, moi, je pense que le calculateur a quelque chose.
Tu fais chier.
Il y a quelque chose. C'est du pur hasard. C'est le pur hasard.
Mais c'est toi.
Il n'y a pas de piège. Hein, c'est du hasard. Il y en a vraiment une roue.
Bonne chance. Ok. Eh ben, waouh. Ok. What the fuck. Alors, ça commence
ça commence dans la matrice.
Eh ben non, non si. C'est le mec direct. Non,
ça
non,
commence
oui.
dans la matrice. On redécouvre. Non, ça commence.
Si, ça commence dans la matrice.
Ça commence dans la matrice avec une fusillade avec Jessica Henwick qui joue Bugs. Ensuite, on transite sur Neo, donc Thomas Anderson, en tout cas le nouveau Neo avec des cheveux longs, Neo John Wick, qui est développeur dans une boîte de jeux vidéo, donc là on ne comprend pas, et qui travaille sur un jeu qui s'appelle Binary et qui est en fait le créateur d'un jeu vidéo, d'une trilogie de jeux vidéo qui s'appelle Matrix et qui a eu un succès mondial, un jeu auquel tout le monde a joué et qui sont en fait les trois premiers films de la saga, si on comprend bien, puisque à chaque fois qu'on a des images du jeu, on voit en fait des images des films. Donc lui, il est un espèce de start-upper dans une boîte très high-tech, style GAFA, qui a créé ce jeu-là, Matrix, qui a eu énormément de succès, et qui là travaille sur un truc qui s'appelle Binary. Et en gros, Neo, développeur dans la matrice, ne sait pas qu'il est dans la matrice, il se gave de pilules bleues, mais il va quand même chez le psy, et on sent qu'il a des problèmes, il confond la réalité et l'illusion, et il va finir par être contacté exactement comme dans le 1 par un groupe de hackers qui viennent du monde réel, donc Bugs, Morpheus qui n'est plus exactement le même Morpheus qui est un programme là dans ce Matrix 4 là, et donc ils ont changé d'acteur aussi, et il va être contacté un peu pour la même mission, c'est-à-dire détruire la matrice, rejoindre le monde réel des humains, monde réel qu'on finit par découvrir dans le deuxième tiers du film et où en fait il n'y a plus de problème, c'est-à-dire que la guerre avec les machines est terminée. Zion, l'ancien royaume humain, a été plus ou moins abandonné pour une nouvelle ville qui s'appelle Io et qui est une ville où en gros ils essayent de recréer une vie confortable. Donc ils essayent de recréer des légumes,
des fraises.
Voilà, les gens vivent plus ou moins en harmonie. Il n'y a pas vraiment de problème dans le monde des humains. Et donc j'avoue, là c'est personnel que je ne comprends pas trop pourquoi ils
vivent en harmonie avec les machines. Enfin,
voilà,
certaines machines
c'est ça,
aussi.
C'est ça qui est nouveau, c'est qu'ils vivent en harmonie avec les machines qui étaient les ennemis du 1. Et là, il y a une espèce de symbiose humain-machine qui se passe. Mais le problème, c'est que Trinity est restée coincée dans la matrice. Et donc, Neo, qui a pris conscience maintenant que la matrice est une matrice et qu'il est dans le monde réel, veut essayer de récupérer Trinity pour l'extraire de la matrice. Et voilà, il va être empêché par l'agent Smith et un nouveau méchant qui s'appelle l'analyste. Et est-ce que je dis la fin ? Non ?
Si, on est à 100% selon.
Et il va réussir à sauver Trinity et à eux deux, ils vont avoir une sorte de rôle d'élu à deux.
Ouais, c'est ça.
Et ils vont devoir réimaginer ce que va être la matrice avec des arcs-en-ciel, puisque cette réplique est dans le film. Et donc, ça finit sur eux deux qui vont probablement reprogrammer la matrice.
Ouais, ils deviennent programmeurs, en fait.
Ça finit bien.
Ça finit bien.
Depuis le temps que Pôle emploi nous sollicite pour
ça. C'est un résumé rapide parce qu'il manque énormément de détails, évidemment, qui nous ont encore plus donné mal à la tête. Notamment le début, en fait, ils découvrent Neo parce qu'il y a un signal de l'existence de Neo dans une espèce de modal. Expliquez-moi
pas
ce que
tout,
c'est un modal.
Le modal, c'est la matrice dans la matrice, que c'est la matrice qu'il a créée lui-même avec son jeu vidéo, si j'ai bien compris.
Voilà, où il y a une espèce de loop, d'une boucle temporelle où il y a les scènes du 1 qui se passent.
Et dedans, si j'ai bien compris, t'as un des agents qui est censé arrêter Trinity, puisqu'on voit en fait une version de Trinity qui refait son célèbre saut de la grue là où je sais plus comment ça s'appelle, et un de ces agents là en fait est la version logicielle de Morpheus, et quand Bugs le découvre, ce personnage là switch en fait, il comprend que son rôle c'est d'indiquer justement aux hackers de la matrice où se trouve le Neo, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à le retrouver en fait au début du film. Et c'est ce personnage là qui est le point clé qui permet de déverrouiller la situation.
Et le truc qu'on n'a pas dit, c'est que toute l'histoire de jeux vidéo est bidon, et que en fait les trois premiers films Matrix ont eu lieu, et que Neo a vraiment existé, il y a vraiment eu les trois premiers films Matrix, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est la matrice qui est l'analyste là qui fait croire à Neo que c'était un jeu vidéo et que ce n'était pas réel, et que ces espèces de réminiscences qu'il a sont en fait ne sont pas réelles alors qu'en fait elles le sont.
Et voilà, et que la Warner du coup n'a pas l'intention de faire un quatrième opus, évidemment.
Oui, il y a tout un truc avec la Warner.
Évidemment.
Et voilà, cité dans le film, on va en parler tout ça dans nos avis, et ça va être compliqué d'attaquer les avis. Wouh, parce que sur le fond, sur la forme, tout va se mélanger un peu.
Il y a
beaucoup de choses à dire, c'est assez dense, c'est assez vaste, il y a moyen de s'y perdre, quoi. Mais on va commencer déjà par une question de choix, parce qu'apparemment le choix est encore au cœur de ce film, et nous aussi on a une question au cœur de notre émission qui impose le choix, c'est le douille ou pas douille, donc douille rouge ou douille bleue, et c'est tout de suite.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, C'est pas une douille.
Douille ou pas douille? Douille rouge, douille bleue? Ah, c'est compliqué, mais tour de table, Johanna, douille ou pas douille? Si on compare la BA au film, évidemment.
Je suis incapable de répondre à cette question, étant donné que la réponse change toutes les deux minutes. Donc, je développerai dans mon avis, mais voilà.
Donc, t'as pas encore mis de véritable adjectif sur le film?
Si, des fois, j'en suis contente, et des fois, non, c'est très bizarre.
Donc, t'es plus douille violette, quoi.
Ouais, c'est ça, douille violette.
Clémence, douille ou pas douille?
Moi, c'est douille.
C'est douille pour Clémence.
Ouais, parce que ça m'a un peu énervée. Enfin, disons qu'en plus, je m'étais refait les anciens Matrix et que la BA me plaisait bien. Et par rapport à ça, moi, ce Matrix 4 m'a pas embarqué.
Clément.
Moi, je dirais douille positive dans le sens où le film avait des qualités auxquelles je m'attendais pas dans la bande-annonce. Il avait aussi des défauts, mais que j'avais vu, c'est-à-dire plus le côté visuel qui m'a un peu déçu. Donc, au final, j'ai passé quand même un bon moment. Ça m'a énormément interrogé, donc ça m'a fait réfléchir. Donc, je pars du principe que j'ai réfléchi. Donc, c'est un film intéressant. Donc, je dirais douille positive.
Douille positive. Kevin, douille rouge, douille bleue.
Je suis comme Johanna, je change d'avis très régulièrement sur ce film-là, mais je pense que les quand même de retour, c'est la douille de Schrödinger.
Oui, c'est là qu'elle est vraiment en fait.
Parce que c'est une douille, c'est pas une douille. C'est dans la BA, on voyait déjà ce côté méta qui est présent, mais il est traité d'une manière qui m'a un peu surpris aussi. Je suis perdu.
La douille de Schrödinger. Et toi, William, douille de Schrödinger, douille bleue, douille rouge,
oui,
douille violette,
peu,
douille
ou
pas douille, 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 je sais plus.
Bah, c'est un peu comme Kevin, c'est un peu le principe d'incertitude, quoi. Je sais pas trop. J'aurais tendance à dire que c'est pas trop douille, puisque c'était un peu le film auquel je m'attendais. Il y a des défauts que j'avais pas vu venir, mais il y a aussi des qualités qui étaient assez visibles. Donc non, je suis plutôt satisfait. Ça ressemble pas mal à ce à quoi je m'attendais.
Et vous,
douille rouge, douille bleue. Enfin, je suis comme Johanna, moi, je suis douille violette. Quoi. S'il y avait une troisième main qui me tendait une pilule, je prendrais celle-là, en fait. La violette, parce que, bah, pareil, en fait, je me pose encore la question, c'est est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est totalement con? Donc j'oscille un peu entre les deux là. Dans la binarité,
juste milieu en plus, tu vois, c'est vraiment
dans la binarité, j'arrive pas à décider. Mais si j'en réfère, je m'en réfère à mon avis par rapport à ce que j'ai vécu en séance, par rapport aux sensations de séance. On est plus sur une douille que sur un pas douille en fait, parce que évidemment le film, t'as les sourcils froncés, tu sais pas trop ce que tu regardes. Il y a une espèce d'ambiance méta, presque cynique durant tout le film, qui permet à sa réalisatrice de se protéger entre guillemets de certaines analyses. Ça, on va en parler, on va développer tout ça, mais pareil, du coup, j'arrive pas à savoir si c'est du génie ou pas. Est-ce que c'est pas là justement le génie?
Est-ce que c'est pas là la douille, hein?
Est-ce que c'est pas là,
bah, pour moi c'est ça,
je sais pas,
on peut être un génie de douille aussi.
Regarde Paul W.S. Anderson.
Non, c'est ça. Ça, c'est une douille de génie.
Ouais. Non, mais lui, il nous douille génialement, surtout.
Non, mais après, avant de rentrer dans le fond du film, on va peut-être parler de la forme, parce que c'est vrai que c'est surprenant aussi d'avoir un écart aussi fou entre les trois premiers Matrix et celui-là, parce que c'est vrai que le premier Matrix, où tout était très pensé, tout était très storyboardé,
très codifié,
qui avait le bullet time, qui avait des ralentis, qui avait des scènes d'action qui permettaient des effets visuels. Ouais, la photo, mais bon, ces effets visuels, ces espèces de vagues propres à la matrice, à tout ça, on ne le retrouve plus du tout dans le film, ou du moins d'une manière différente.
C'est plus là.
Ouais, ce qui m'a un peu décroché, c'est aussi ça, c'est que dans la forme du film, visuellement, ça n'a plus rien à voir avec les films des années 90-2000, quoi.
Mais est-ce que ça découle pas du fond, ça? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un film de fond et que la forme est juste au service de ça, quoi. Franchement, moi, ce film, il m'a perturbé. Déjà, juste pour vous dire premier degré, moi, j'ai pas passé un bon moment quand je l'ai regardé. J'étais perdu, je savais pas où j'étais, et pourtant je savais à quoi m'attendre. Je savais que c'était un film qui avait un discours méta, je savais que c'était un film qui avait pas envie d'exister mais qui existait quand même, et que j'étais sûr que Lana Wachowski allait traiter ce sujet là quoi. Et je trouve, passé le choc des premières minutes, que le début est vachement intéressant. J'aime bien ce côté où tu es dans la matrice, mais elle est plus pareille. En même temps, tu as une sorte d'irréalité constante, d'onirisme. Tu sais pas exactement où est Neo. Ce côté, tu sais pas s'il est fou, tu sais pas s'il est mort et qu'il est dans un enfer artificiel. Enfin, tu te poses plein de questions. Et du coup, quand on commence le discours vraiment méta avec la réunion des producteurs, je me dis d'accord, bon, ça va être un film qui va parler que de ça. Très bien, j'accepte. Allons-y, on y va. Mais ça devient réellement ce qu'il dénonce au bout d'un moment, en fait, ce film-là. Et c'est ça qui me perturbe, parce que c'est pas gratuit. Je me doute bien que Lana Wachowski, elle l'a fait en conscience, en disant, bah voilà, en fait, c'est un film qu'on me force à faire, mais en rendant ce film mauvais, enfin, en rendant la forme différente de d'habitude, en refusant de filmer des scènes d'action, par exemple, en changeant totalement l'étalonnage, en changeant tout ça, et en faisant un truc que vous ne voulez pas, auquel vous ne vous attendez pas, j'ai un discours, en fait, sur ce qui rejoint celui de la première partie, qui est, bah voilà, il y a des films qui sont en trop, il y a des films qui n'ont pas besoin d'avoir de suite, c'est des délires de producteurs, on est dans une industrie qui prend un peu les spectateurs pour des moutons et vous en êtes les victimes, vous êtes toujours dans la matrice alors que nous, il y a des années, on a essayé de vous en faire sortir. Mais je trouve que le problème, c'est qu'en faisant ce qu'elle dénonce, soit ok, ça peut être stylistiquement intéressant, mais je trouve que ça fait un petit peu un effet pervers d'être enfin, j'ai ressenti un peu comme ça, d'être un peu méprisant, quoi, et de faire un film qui refuse d'exister et je vois ça comme un essai plus que comme un vrai film de cinéma.
C'est pour ça qu'on a le cul entre deux chaises, en fait. C'est qu'on ne sait pas si on est pris pour des cons ou si, au contraire, on est en train d'assister à quelque chose de très intelligent et une espèce de critique un peu sur ce qui se passe au cinéma aujourd'hui, ses suites, ses reboots, ses remakes à gogo qui piochent dans la nostalgie et qui refusent de l'originalité, quoi. Et qui vont souvent aussi dans l'option de facilité avec du fond vert et des effets visuels qui sont plus trop pensés en termes de mise en scène, mais plus en termes de coût, quoi. Et là, pour faire référence à la scène dont tu parles, j'imagine que c'est celle où il parle de la Warner Bros directement dans le film.
Oui, il les cite directement.
Voilà, où on en apprend que la trilogie Matrix a bien existé en jeu vidéo dans leur univers à eux. Mais en gros, c'est à peu près la même chose, hein, c'est exactement la même chose même. Et que la Warner leur a demandé de faire la suite. Au lieu de passer à un autre jeu, notamment Binary, dans le film, on lui demande de faire Matrix 4, quoi. Et donc, à partir de là, oui, tout ce postulat-là, il est posé. Et tout ce qui va suivre, tu sais pas si par rapport à ce qui a été dit là, si on tombe justement dans cette facilité-là pour dénoncer, ou si simplement c'est, bah, de toute façon, on va vous faire ça, puis vous allez être trop con, vous allez bouffer, quoi.
D'autant que je trouve que ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'il y a des pistes de ce que pourrait être un vrai Matrix, enfin, je mets avec des guillemets, mais ce que pourrait être un vrai Matrix 4. Quand on commence à évoquer le fait qu'il y a eu une guerre des machines, quand on commence à évoquer qu'il y a des programmes qui sont conscients, les sentients, qui peuvent être libérés, quand on commence à parler de tout ça, en fait, c'est des pistes qui auraient pu s'intégrer vraiment dans un Matrix sans Neo, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Matrix continue à exister? Pourquoi et comment les machines réagissent au fait qu'elles n'ont plus d'énergie, d'où cette guerre apparemment, quoi. Enfin, je sais pas, il y a plein de questions qui auraient pu être développées et on a l'impression qu'elles font exprès de pas y répondre en disant, vous avez vu, on aurait pu faire ça, mais allez vous faire foutre. Et je sais pas, moi ça me gêne.
Mais c'est super intéressant ce questionnement là, justement sur ce choix d'accepter le film ou pas, qui fait aussi forcément écho avec l'idée du choix qui est encore présent autour du film.
C'est ce que tu dis, Kevin. La deuxième partie surtout du film qui est un Matrix normal entre guillemets, c'est-à-dire qu'on oublie un peu le côté méta et on est vraiment dans des combats, les mondes des machines, la Matrix et tout. Moi j'ai eu l'impression, c'est vrai que c'est intéressant, il y a des pistes et tout, mais j'ai eu l'impression que c'était la Warner. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, la première partie c'est elle, la fin c'est elle avec les arcs-en-ciel dans la Matrix et tout, mais le milieu, on dirait qu'on lui a imposé quand même de faire une histoire de Matrix, tu vois, et qu'elle s'en débarrasse un peu. Et en même temps, visuellement, je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Enfin, donc c'est très paradoxal, c'est un film totalement paradoxal et qui le sait. Et je sais pas à quel point elle a eu les coups des franges pour écrire ce qu'elle veut et réaliser ce qu'elle veut, à quel point la Warner a mis son truc dedans, parce que c'est vrai que le film change complètement de ton vers le deuxième tiers et rechange de ton vers la fin pour redevenir méta. Et on dirait vraiment qu'il y a deux scénaristes qui vont pas dans le même sens. Et c'est assez, moi je trouve que le film est assez fascinant d'un point de vue théorique, c'est-à-dire que j'ai rarement vu un film qui m'a autant questionné sur qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce qu'un personnage, qu'est-ce qu'une intrigue, qu'est-ce qu'une suite, qu'est-ce que créer une œuvre.
Fanbase aussi.
Elle a un rapport vraiment très particulier à Matrix, c'est qu'en même temps, bah, ça paye les impôts, était devenu riche grâce à ça, était devenu célèbre grâce à ça, et en même temps, on a l'impression que tous les autres projets qu'elles ont faits ont échoué. À part Matrix, Cloud Atlas n'a pas marché, Sense8 n'a pas marché, Jupiter Ascending n'a pas marché. Et tu as l'impression qu'il y a une espèce d'injonction pour elle à revenir tout le temps à Matrix parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui fait du blé, c'est ça que les gens veulent voir. Et qu'elle, elle est juste dans « mais arrêtez de me saouler avec Matrix, moi Matrix, je vais le saborder en fait ». Et je trouve que cette démarche, quelque part, c'est rare de voir un réalisateur qui a les moyens de dire fuck à l'industrie et en même temps qui est obligé de faire partie de cette industrie. C'est totalement étrange. Et moi, je l'ai trouvé théoriquement vraiment très intéressant, un objet vraiment unique dans le cinéma, quoi. Ce questionnement très profond sur qu'est-ce que le succès, le marketing autour du film. Il y a quand même vraiment des scènes où tu vois les marketeurs autour d'une table et qui t'expliquent comment ils vont essayer de marketer Matrix 4. Il y a une réflexion sur le bullet time, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est à la mode et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Après, ça me passionne un peu moins visuellement parce que j'ai l'impression que le côté visuel, c'était Lily qui s'en occupait. C'est l'impression que ça m'a fait, hein. J'ai aucune preuve de ça, mais j'ai eu l'impression que tout ce qui est chorégraphie de combat, costume, décor, iconiser les personnages et tout, c'était Lily et que Lana, elle était que dans le fond. Et l'idéologie, en fait, autour de Matrix, et l'idéologie, moi, je la trouve toujours aussi cool. C'est un film ultra punk. C'est un film qui te met un gros doigt dans la gueule. Alors oui, ça met aussi un doigt au spectateur, mais ça met un doigt à l'industrie. Il y a quand même un moment donné où un personnage dit il n'y a plus vraiment de guerre aujourd'hui, et du coup, on a l'impression que tout le monde c'est un peu endormi, et ça, bah, pour moi, c'est une critique de la société, c'est qu'on est tous devenus un peu des moutons et on accepte un peu tout très facilement. Donc elle a un truc très punk, une énergie comme ça, anti-système, anarchiste et tout, que moi j'adore, de gauche à fond, et que je trouve dans un blockbuster est rare, quoi, parce qu'on vient de se taper Spider-Man où c'est que cocher des cases pour faire plaisir aux gens, tu vois, et là c'est l'anti-Spider-Man, c'est que je coche des cases pour vous montrer que j'en ai ras-le-cul de le faire et que ça n'a aucun sens de faire Matrix 4. Et donc voilà, je l'ai trouvé intéressant sur le plan théorique et du fond. Visuellement, ça m'a moins passionné parce que je trouve la photo assez lambda et je trouve qu'elle aurait pu mettre ce fond au service quand même d'un film qui est un peu plus de soucis esthétiques. Voilà.
Ouais, un peu ce doigt d'honneur là que tu mets en avant, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mal vu aussi dans les critiques là sur internet. Un vrai doigt d'honneur en fait, en mode bah, écoutez, vous voulez un film Matrix, je vais vous en donner, quoi. Toi, tu l'as perçu comment ce doigt, Johanna? Comment t'as reçu ce doigt? Non, toi mais... qui as le cul entre deux chaises, justement,
bah,
que t'arrives
fait,
pas à faire un avis.
Je vais passer mon tour parce que ça va faire redite. Je suis assez d'accord avec ce que Kevin et Clément ont dit. Ça résume assez bien ce que je pense du film.
Ouais.
Donc je vais laisser la
mais
parole.
Mais ton état là actuellement, tu peux pas dire si t'as aimé le film ou pas ou...
Ouais, mais c'est exactement pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'en regardant le film, j'ai eu des moments de gros sourire en me disant elle est vraiment en train de s'auto-troller et je trouve ça génial de troller une œuvre, de troller ce propre Matrix 4.
Son public aussi.
Tu vois, et de troller son public. Et il y a plein de moments de troll que j'ai trouvé génial. Après, en termes d'écriture pure, il y a des moments de messages politiques, on va dire, qui m'ont moins plu parce que je trouve que l'essence de Matrix, ça j'ai bien aimé comparé à Spider-Man, forcément j'ai comparé. C'est que je trouve que tu vois la différence entre quelqu'un qui est à l'origine d'une œuvre et qui en fait la suite et quelqu'un qui est un yes man et à qui on donne des cages comme ça et qui les coche. Et en termes d'écriture, il y a des moments où j'ai trouvé le message pas du tout subtil, alors que je trouve qu'une des essences de Matrix, c'est de mettre l'histoire au service du message. Et là, j'ai eu l'impression de moments où on te regarde face cam et où on te dit « t'as pas compris c'est quoi Matrix ?» Ben en fait, c'est ça. Et au fait, oh, elle te balance tous les messages qu'elle a à te balancer à la gueule. Et j'ai eu l'impression que c'était dû à un espèce de ras-le-bol de gens qui sur-iconisent Matrix, qui lui donnent trop d'importance, entre guillemets, et trop de surinterprétation. Et elle revient au premier degré en disant « au fait, Matrix, c'est ça, et il n'y a aucune raison de faire une suite. » Et du coup, en effet, ouais, prends un gros doigt dans ta gueule, quoi.
Clément, c'était plutôt d'accord avec ce que vient de dire Joanne.
Bah, en fait, là où je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, déjà, je trouve que quand vous en parlez, c'est bien plus intéressant que le film en lui-même, en fait. Ce qu'a dit Clément m'a plus intéressé que le film. Mais parce que pour moi, le film dit pas bien ça, en fait. Si tu veux le propos méta et tout, pour moi, comme on disait, entre deux os, entre deux chaises, j'arrive pas à savoir si c'est signé Warner ou Lana Wachowski. Donc, en fait, pour moi, le propos est pas du tout clair. Et ça me plairait si c'était mieux fait, en fait. Et je trouve que ça se tire une balle dans le pied, mais même pas consciemment, mais vraiment parce que ce n'est pas, limite pas assez assumé, en fait. Je n'arrive pas à savoir. Et je suis d'accord avec Johanna sur... Enfin, je sais pas si je suis d'accord, mais ce qui résonne dans ce que tu viens de dire, c'est le côté histoire, en fait. Moi, je suis peut-être un peu premier degré, mais je suis aussi déçue par rapport au film des Wachowski précédents, qui, pour moi, ont toujours été plutôt des vraies bonnes histoires au premier degré, très premier degré, avec des personnages... Même les premiers Matrix, l'histoire d'amour entre Neo et Trinity, elle est ultra romantique, et je trouve qu'elle était déjà très bien faite et très premier degré. Mais elle prenait le temps de raconter ça. Et en fait, là, je trouve que dans le film, Ce film ne prend pas le temps de raconter son histoire, il se raconte lui-même, il raconte l'industrie, il raconte, enfin, je sais pas, il est trop méta en fait, ouais. ça me gonfle.
C'était méta, donne
j'en ai un peu marre de ça en fait, et j'ai presque, c'est pour ça, je vois un peu la vision trop sombre du truc, mais j'ai presque l'impression que c'est juste l'intention de Warner ça en fait. Que Warner, depuis qu'ils ont fait Space Jam 2 et plein d'autres trucs où ils s'auto-citent, en fait, ils sont juste dans cette ère du temps un peu marketing de producteur de c'est bien de s'auto-citer. Alors peut-être que c'est comme ça qu'elle elle a réussi à faire passer son truc en leur faisant miroiter ça et du coup, ok, ils acceptent qu'elle se foute d'eux et ils se disent en même temps, c'est cool aujourd'hui de se foutre de soi-même, d'être dans l'autodérision et de s'auto-citer.
Ils sont même pas rendus compte en fait.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ça m'énerve parce que le studio est trop mis en avant dans tous les cas, que ce soit elle qui le fasse ou eux qui le veuillent. Ça me gonfle, en fait, je veux une histoire. Et à côté de ça, je trouve que les persos, justement, c'est ça qui me déçoit énormément. C'est ce qui fait que je me suis endormie une partie du film. C'est que j'aurais aimé qu'ils soient plus consistants, en fait, comme dans les anciens films, ou comme dans Jupiter Ascending, qui n'est pas forcément aimé de tous, mais qui a vraiment des persos écrits, quoi. Ou comme dans Claude Atlas. Enfin, pour moi, Claude Atlas, ouais, à côté, ouais, fait office de chef-d'œuvre et j'ai envie de le revoir.
C'est un de leurs meilleurs films.
Là, tu vois, les acteurs peuvent être charismatiques. Par exemple, j'ai bien aimé Emmanuel Macron dans l'Agent Smith. Je trouve qu'il en voyait vachement. J'avais envie de le voir, cet Agent Smith.
Sert,
et en fait, il sert à rien.
Personnage.
Il sert à rien, il se retourne, il est vraiment là pour juste histoire d'eux, comme le mérovingien. Enfin, ça me gonfle
ça,
en fait.
C'est difficile. Mais après, en fait, c'est ça le problème avec ce film, c'est que tu sors, t'arrives avec des questions, tu ressors avec plus de questions, quoi. Tu fais ok, donc j'ai pas eu beaucoup de réponses, au contraire.
Non, mais même, j'avais juste envie de passer un moment de divertissement. Et pour moi, ça, c'est pas du divertissement, c'est juste l'industrie qui se regarde le nombril. Et même de sa part à elle, en fait, c'est ça qui me gonfle. J'ai envie de dire, à un moment. C'est bien, tu nous pousses à surinterpréter. Je veux bien que vous trouviez ça fascinant, mais moi, ça ne marche pas sur moi. Et j'ai l'impression que quand on trouve ça fascinant, on surinterprète plus qu'autre chose.
Ouais, mais après, là, le côté intéressant, c'est que ce film, tu en sors en disant bah, y a plein d'analyses. En fait. Moi, première chose à laquelle j'ai pensé en sortant, c'est genre en mode, il faut que j'aille sur Internet chercher des réponses parce que là, j'en ai trop. Voir un peu les gens s'ils peuvent m'aiguiller avec leurs avis, leurs analyses. Et au final, on a à peu près tous la même, quoi. On a vite capté le côté méta, le côté Hollywood, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, bah, c'est ça. Mais par contre, ouais, je te rejoins pour les personnages présents à l'écran qui sont parfois creux, quoi.
Mais même Trinity, regarde, je trouve que c'est très décevant parce qu'elle est censée être au centre, mais en vrai, non, en fait.
Bah, on nous
fait
montre,
pas
après,
chose,
on a vite compris, en plus, c'est marqué à la fin dans le générique parce qu'elle dédie ce film à ses parents. À qui elle rajoute une petite citation qui dit « L'amour est la jeunesse de tout ». Donc bon, là, tu comprends qu'en fait, ouais, okay, c'est l'amour qui est l'élu, quoi. C'est l'amour entre Trinity et Neo qui fait l'élu.
Il y a une belle scène, d'ailleurs, à la fin, quand même.
Voilà,
sur
il y a le positif, le négatif. Sans ces deux-là, ça n'existe pas, tu vois. Donc forcément, si l'élu peut exister seulement si les deux sont ensemble. C'est ce qu'ils disent un peu dans le film aussi. Et c'est peut-être aussi ça, peut-être parce que les sœurs n'étaient pas ensemble, qui fait que le film ne marche pas aussi. Et il est en train de se casser la gueule là au box-office.
Bah,
ça,
pour
c'est
moi,
terrible,
c'est un peu un produit typique Warner, comme ils savent faire. Je terminerai là-dessus. C'est que j'ai trop ce sentiment, comme pour Justice League ou d'autres films de la Warner récents, c'est qu'elle, c'est une autrice. Et elle a mis un peu d'elle, mais comme vous disiez, au niveau du scénario, on a l'impression que des fois ça va, ça vient, et qu'on l'a aussi forcé à faire des choses. Et c'est un typique produit hybride de Warner où. Ils prennent un peu trop de place, je trouve.
Et pourtant, il y a de la thune. Hein. Je crois que le film a coûté plus de 150 millions de dollars. Et je me demande où est-ce qu'elle est passée. Parce que même quand ils nous présentent le nouveau Zion, là, il y a 4 pélos pour les accueillir. Ah ouais, c'est toi, Neo, bienvenue. Ah ouais, je suis content d'être là. Moi, je m'attendais
je trouve dur.
Je m'attendais à une foule en liesse, quoi. On parle de Neo depuis des années, depuis 60 ans et tout. À côté, t'as Niobe, là, qui est passé chez les Guignols pour se refaire refaire un masque. Non, mais il y a des trucs où tu te dis, bah, ok,
ça, c'est
ils sont sympas, ces personnages.
Les
maquillages,
c'est pas le
problème. Franchement, je suis désolé, quand je voyais Zion dans la première trilogie, t'avais quand même des gens, quoi. Je veux dire, quand la scène de fête et tout, il y a des centaines de personnes. Là, tu vois 4 personnes et tout. Et le pauvre Neo, il revient.
Il y a quand même des bons trucs, les cocons, avec l'espèce de liquide quand ils sortent.
Il y a des images du film,
tu vois, mais pas forcément sur la matrice.
Mais après, sur la matrice, tu peux creuser.
Mais trop peu, mais c'est parce qu'elle a pas envie de te les montrer. Moi, je suis persuadé que c'est conscient. Je ne vous montrerai pas ce que vous voulez.
Ou bien, ils ont prévu une version longue de 4 heures, réalisée par Zack Snyder, qui va sortir bientôt.
Et William, t'as pensé quoi?
Et William, ouais, qu'est-ce que tu nous penses de
bah,
ça
déjà, je me suis posé plus ou moins un peu les mêmes questions que vous, que vous avez abordées là. Après, moi, par rapport à la place de Warner, je suis un peu plus étonné parce que, bon, ça fait 20 ans qu'on leur proposait de faire un quatrième film, elles ne le faisaient pas. Et ce scénario, c'est elle qui l'a volontairement, enfin, son propre chef, écrit. Du coup, j'ai beaucoup de mal à croire que le produit qu'on voit n'est pas le sien. Mmh. Alors, je suis sûr que Warner, ils ont forcément fait un peu d'inférence, c'est forcé, mais... Là, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est son produit à elle. Personne lui a mis... Enfin, elle n'était pas sous contrat ou elle devait encore réaliser des films pour eux. Donc,
D'une certaine manière, oui, il y a forcément de l'interférence de production, mais personne n'est obligé à le faire, ce Matrix 4. Donc tout d'un coup, se dire, j'ai l'impression d'y voir Warner qui vient parasiter son film, je suis pas sûr que ça soit vrai. J'en sais rien.
J'en suis pas sûr non plus. Hein.
Voilà,
c'est vraiment par rapport au milieu du film. Quoi,
oui.
C'est tellement différent.
Je trouve ça un petit peu étonnant qu'elle nous propose ce film-là. Qui est aussi, moi, le côté méta dans la première partie m'a pas mal intéressé. J'ai trouvé ça un peu lourd sur la fin. Le truc avec Warner, ça m'a pas du tout plu. Je me suis dit, oh, il se cite encore une fois, c'est un peu lourd. Quoi. Surtout que pour le coup, moi, j'ai vu Space Jam 2, donc c'est l'enfer. Maintenant, j'ai parlé tout le côté symbolique autour de est-ce qu'on devrait critiquer le monde du cinéma à travers une œuvre. Bon, ça, vous en avez parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je vais parler de ce qui m'a pas mal plu dans le film. J'ai aimé le personnage de l'analyste. Voilà, je trouve qu'il a un discours au milieu du film autour du bullet time. Et
ouais.
Qui, pour le coup, ce discours-là sur comment finalement les gens acceptent plus facilement d'être dans la matrice parce que c'est facile, que c'est moins enfin finalement c'est du rasoir d'Occam quoi, c'est la solution qui te demande le moins d'énergie donc tu vas plus facilement. Je trouve ça assez fort par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, notamment avec les histoires de crise sanitaire ou même de crise économique qu'on constate depuis 40 ans.
J'avoue que celui qui a créé le programme Covid complètement con.
Voilà,
tranquille quoi, on peut faire ce qu'on veut ici dans la matrice.
Donc voilà, j'ai aimé ce personnage là, j'ai aimé ce montage ultra rapide qu'on a au début avec Neo qui est totalement perdu dans
il est trop bien le training montage.
Voilà, le training montage, je le trouve génial. Après il y a des trucs qui m'ont pas plu du tout, genre la séquence du train elle est ouais. Moche quoi, c'est mal monté, je trouve les scènes d'action pas du tout marquante, c'est pas toujours bien filmé, techniquement il manque quelque chose. Alors je suis d'accord avec Kevin, je pense que d'une certaine manière elle voulait justement faire le contre-pied à ses premiers Matrix dont la force était les scènes d'action, en disant bah là je vais me concentrer sur autre chose, sauf que ça ne l'obligeait pas pour autant à mal filmer ces scènes, parce que moi je trouve que des fois c'est mal filmé, c'est pas juste
lambda,
c'est pas
ouais.
Qu'ils ont pas rien proposé, c'est vraiment, c'est que des fois je trouve que c'est mal filmé, c'est pas très lisible, c'est
ouais,
bon. Après il y a des symboles que j'ai trouvé forts à la fin, Trinity qui récupère le rôle un peu d'élu à Neo, c'est elle qui le porte. J'ai du mal à ne pas y voir aussi la transition ouais. de Lana, de l'homme vers la femme. Donc elle a récupéré aussi son pouvoir en réaffirmant son identité. Voilà, je trouve que c'est des choses qui sont belles, ça me touche. J'ai passé plutôt un bon moment. C'est pas à la portée de ce à quoi j'attendais. Je trouve que la scène finale là, de course-poursuite dans l'autoroute, il y a plein de gens qui se sont ébahis devant cette scène. Moi, j'ai trouvé qu'elle a été mal filmée. On voit pas grand chose.
Le concept est cool, je trouve. Les gens qui sautent les immeubles, il y a vraiment un truc
en mode,
fort.
En mode zombie, là, j'ai trouvé ça
iconique,
vraiment.
Ouais.
J'ai trouvé ça vraiment
cool.
Bon, après, en effet, que vient faire l'agent Smith dans le film? Il est là, il attaque au début en disant je veux pas que tu te réveilles, et puis quand il est réveillé, il vient l'aider, et puis il disparaît. On
puis
sait pas quelle
est machina en plus, lui. Hein.
Voilà, quelle était sa fonction?
Bah,
c'est pas trop.
Bah, c'est peut-être ça, parce qu'il travaille pour la boîte pour laquelle il travaille, le jeu vidéo, c'est Deus Machina.
Ouais.
Ah bah c'est
le gars est directeur
pas.
De cette boîte et il débarque à la fin juste pour faire Deus Ex Machina.
Degré, quoi.
Donc je pense que c'est vraiment premier degré. C'est vraiment, tu te fous de notre gueule, Lana.
Je trouve dommage qu'ils aient pas pu s'exploiter Trinity. On la voit vraiment dans les 15 dernières minutes. Vraiment, je veux dire qu'elle a un vrai impact que dans les 15.
Après, ils ont 50 ans passés aussi, ils peuvent plus faire tout ce qu'ils.
Non, mais au-delà de ça, j'aurais aimé qu'on la voit un petit peu plus, qu'ils soient un peu plus construits. Je trouve dommage qu'on ait un bug. Le personnage a l'air trop bien.
Ouais.
On parle de son réveil quand elle voit le vrai visage de Neo à travers son avatar dans la matrice. J'aurais aimé que ça soit vachement plus développé. Je sais
mais
pas,
tous,
dans le sens...
D'ailleurs, même Morpheus, le nouveau, je trouve qu'il est super charismatique aussi. Il y a l'abeille et c'est trop décevant parce qu'il sert à rien.
Il sert à rien à part au début à indiquer que Neo il est à tel endroit dans la matrice puisqu'il le cherche. Et après, à partir de là, il devient un personnage fonction. Alors
en fait, c'est comme s'ils avaient tous leurs petits moments, mais au-delà de ça, ils sont pas écrits. Quoi.
Bah voilà. Et en fait, c'est un peu ça le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose de... Elle aurait pu faire quelque chose de vraiment mieux et ça manque un petit peu.
Il me manque quelque chose, il me manque quand même ce côté légendaire que j'aurais aimé retrouver dans le nouveau Zion là, de Neo, parce que tu peux pas dire que ce personnage-là est quand même celui qui a sauvé le monde réel
en prison
des machines et tout, sans que son retour dans la nouvelle ville et qu'il revienne d'entre les morts comme Jésus et tout soit pas acclamé. Quoi, tu vois, ça m'a manqué, je trouve que...
Il n'y avait pas de figurance pour
mais encore une fois, c'est un discours sur la non-iconisation de Matrix.
C'est, ça,
ouais. c'est ce que disait Johanna, c'est que les gens, vous êtes allés trop loin avec Matrix.
J'arrive pas à savoir si les défauts sont
ça,
des qualités et si les nouvelles qualités sont perçues comme défauts exprès. Enfin, tu vois, c'est ce discours-là que j'arrive vraiment pas à comprendre.
Moi, j'ai l'impression que le film, en fait, il m'a aussi laissé un côté. J'ai l'impression que c'est un film qui est un peu amer aussi. Pour moi, Matrix, la trilogie originale, même si elle ne se finit pas spécialement bien, enfin, ça se discute. C'est un peu un film sur l'espoir aussi, quoi. C'est quand même est-ce qu'on peut sortir du déterminisme ou est-ce qu'on peut juste dévier un tout petit peu la route pour avoir un avenir meilleur? Est-ce qu'on peut sortir en éveillant les gens, mais en se tendant la main, quoi, simplement.
je trouve que c'est un message qui est plutôt positif, alors que là j'ai l'impression que c'est un film qui dit de toute façon on n'a pas réussi, vous êtes des cons, on a perdu.
Oui, puis la fin c'est quand même on va refaire les choses en arc-en-ciel mais dans la matrice.
Ouais,
donc on a perdu. C'est un peu bizarre, et c'est un peu déceptif.
C'est un aveu d'échec, c'est de toute façon on y reste. Quoi.
Bah c'est en fait un entre-deux, c'est un peu à l'image de ce que dit Bugs à un moment à ce personnage féminin dont j'ai oublié le nom qui gère la nouvelle IO là, qui est dans la première. Voilà, quand lui dit ouais, clairement t'abandonnes des gens, ils servent de pile. Ok, toi t'as créé ton petit chez toi, ton petit îlot qui fonctionne.
Avec tes tomates.
Et tu fais des plantes.
tu fais des tomates, tes fraises et t'es content parce que tu peux te faire tes gâteaux, c'est génial. Mais à côté de ça, il y a des millions de gens qui servent de pile et t'as décidé de les abandonner pour ton confort. Et d'une certaine manière, je trouve que politiquement, c'est assez fort.
Bah ouais,
puisqu'on a exactement la même chose avec, je sais pas, des classes dirigeantes aujourd'hui qui ont leur petit confort et que ça les dérange pas de voir les écarts.
Mais je pense que tout le film a une double lecture, mais des fois, elle est moins subtile et moins intéressante qu'à d'autres moments du film.
Oui, comme typiquement la scène.
C'est ce que je voulais dire, c'est que du coup, ce personnage de Bugs qui met ça en perspective, à la fin, finalement, bah, Neo Trinity propose pas de détruire la matrice, il propose juste de la modifier. Donc au final, c'est un entre-deux un peu nul, un peu genre, bah, en fait, vous faites pas vraiment mieux que Niobe, quoi. C'est-à-dire que ça reste quand même des piles qui vont juste.
Ah bah, à la fin, ils ont le discours de laisser nous tranquilles dans notre coin, hein. ils vont vivre ensemble, quoi.
Et du coup, je trouve que c'est très pessimiste.
Ouais, et en même temps optimiste parce qu'il remercie le méchant là en disant que si vous existiez pas, bah, nous on n'aurait pas l'espoir d'avoir quelque chose de meilleur, quoi.
Oui, voilà, mais c'est.
Et du coup, ça se mord un peu la queue, tu vois.
Tu sens ce discours parallèle avec plein de choses, comme que ce soit politique, que ce soit simplement sur l'industrie du cinéma et d'où où tu te dis, bah, on vous propose un peu de la merde, mais en même temps.
Parce que vous la voulez.
On dirait que, comme des personnages dans le film, on dirait qu'ils savent qu'il y a des solutions, mais qu'ils se sont, qu'ils ont lâché prise, quoi. C'est genre en mode, bon, bah, maintenant c'est comme ça et puis c'est tout, quoi. C'est pour ça que c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de, je sais pas, de reflet par rapport à nous.
Moi, la fin, elle m'a fait aussi une impression de, oulala, si je referme pas le film brutalement, on va devoir faire des suites, tu vois. Parce que c'est vrai ce que tu dis, Kevin, tout le monde des machines et tout, c'est super intéressant et tu as presque envie de voir d'autres films qui se passeraient dans ce monde-là et tout. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu paniqué et qu'à la fin, elle s'est dit, il faut absolument que je referme parce que je n'ai pas envie de faire Matrix 5.
En fait, c'est exactement ce que je me suis dit aussi.
C'est un truc étrange, quoi.
Et elle termine sur une scène post-générique complètement what the fuck qui correspond aussi un peu à ce qui peut se faire aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est comme si à la fin d'un Spider-Man, on t'aurait dit si on en mettait trois dans un seul film.
Mais ce qui est intéressant dans la scène post-générique, je suis en train de penser, c'est qu'elle remontre les gens de la boîte de Neo jeux vidéo, mais en fait ils sont là sans lui, alors qu'au début du film il était avec eux, un peu blasé d'entendre leurs réflexions, et à la fin dans cette scène ils sont vraiment qu'entre eux, donc c'est aussi une manière de dire, bah là moi je suis plus là en fait, vous allez peut-être avoir envie de réfléchir au prochain ingrédient et tout, mais sans moi.
Ça sera sans moi,
Catch Freaks. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la scène de fin de générique, on vous invite à retourner voir le film et puis de rester jusqu'à la fin.
C'est un bon tacle à Marvel.
C'est une fin qui fait miaou. Ouais. Quoi. Oui, bah, moi j'ai clairement vu des tacles à Marvel, j'ai clairement vu des dénonciations, mais en même temps, j'ai pas non plus kiffé. C'est ça qui m'énerve, c'est que, comme elle le dit Clément, c'est que c'est bien beau. Mais fais en sorte que que le cinéma existe et que tu t'en ressortes.
En fait, moi, je préfère quand Warner fait Dune, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est une histoire, une belle histoire. Ok, il n'y a pas de propos. C'est pas un truc
où on
store le cerveau.
On va appeler Denis pour Matrix 5. On va remettre les points.
Arrêtons avec Matrix, passons à autre chose. Ça serait bien.
Et bah, je propose qu'on passe, du coup, vu que tout le monde a donné son avis, à la revue de presse, parce que les gens aussi se sont pas mal exprimés sur ce film, qui fait plus couler d'encre d'ailleurs qu'il y a de gens en salle. Et ça, c'est.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair.
Parce que ça marche pas du
tout. Les professionnels ont des choses à dire.
Revue de presse.
La 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 revue de presse. La revue de presse, on parle évidemment de ce film, hein, évidemment qu'on attendait beaucoup les gens à la sortie de ce film pour savoir ce qu'ils en avaient pensé. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont pu laisser les gens partir en cobaye en mode écoute, moi je vais aller voir Spider-Man, va voir Matrix, ensuite on se rejoint, on se fait un topo. Il s'avère qu'apparemment le bouche à oreille, ça fonctionne, mais pas dans le bon sens pour Matrix. C'est seulement 72 millions là, à peu près, hein, au moment où on enregistre, de revenus mondiaux.
C'est pas beaucoup,
c'est un four.
Ce qui est un véritable four. 28 millions aux États-Unis et 44 mondial. Et encore, je pense que les chiffres sont pas forcément mis à jour, mais ça reste très peu quand même. Bref, le film est un four et je pense que les critiques doivent être perdues aussi. Kevin.
C'est fait exprès, comme ça il n'y aura pas de Matrix 5.
Bah oui,
ce que j'allais dire, c'est le vrai effet positif de truc, c'est qu'il n'y aura pas de 5.
Peut-être.
C'est le plan de Lana depuis.
Mastermind.
elle nous a matrixé.
Oui, alors, revue de presse, moi je vais faire un petit tour des notes déjà. Alors, les avis sont très, très partagés. Hein. Pour le coup, sur Rotten Tomatoes, on est à 65%, donc on est au-dessus de la moyenne, mais c'est quand même
c'est pas dingo. Quand, quand tu vois que ça fait 94% Spider-Man No Way Home à côté, quoi.
On parle pas.
Mais oui, mais ça, c'est un scandale. Métacritique, on est à 64 et sur Allociné, on est à 3,5 de moyenne presse sur 5.
Bon, ouais. C'est très moyen un peu partout, quoi.
C'est très moyen un peu partout. Donc, en termes de critique, j'ai mis deux catégories. La catégorie, ils ont gobé la pullule et la catégorie, ils n'ont pas gobé la pullule.
La pullule Les pullules
Les bonnes petites pullules. Allez, on commence avec Cinématiseur. Parce qu'il refuse les conventions, Matrix Resurrections réécrit en cours de route son propre code et opère via les formidables Jessica Henwick et Carrie-Anne Moss face à un Keanu Reeves très inégal, une prise de pouvoir du féminin réjouissante et incarnée. C'est cette sincérité-là, ce combat contre la violence du réel par la beauté et la puissance du cinéma, cette manière qu'a Resurrection de reformater Matrix en lui injectant de nouvelles images, qui en font un objet filmique essentiel car idiosyncrasique et iconoclaste, une expérience à la fois exaltante car spectaculaire et bouleversante car authentique.
Et ben,
ils ont coupé la pullule.
Mais je retiens expérience.
C'est vrai que Jessica Henwick est très bien.
Ouais, faut avoir quand même le côté iconoclaste qui était quand même vachement plus présent, je trouve, dans les trois premiers que dans celui-là.
Idiosyncrasie aussi, je la questionne.
Mais côté expérience, par contre, on y est, quoi. Bonne ou mauvaise, en tout cas, c'est sûr que c'est une expérience parce que t'as rarement vu ça dans le milieu du cinéma.
Ouais, c'est clair.
Non, mais c'est un peu un ovni, hein, ce film. Le Parisien a bien aimé aussi. Le Parisien écrit « Lana Wachowski propose une longue mise en abîme de ses propres films, mais aussi de Hollywood et du cinéma en général. C'est drôle au début, un peu lourdingue au bout d'un moment. Keanu Reeves en train de réfléchir sur le trône de ses toilettes, le même avec un canard gonflable sur la tête dans son bain. Les choses sérieuses ne débutent donc qu'une fois le héros luttant contre la Matrice. À partir de là, c'est le festival. Matrix est alors l'un des films d'action les plus déments de l'année. Les flashbacks devenant des Madeleines de Proust appréciés à leur juste valeur. »
Oui.
Bon. Pas d'accord sur l'action. Hein.
L'action, je suis pas très
d'accord. Intéressant de revenir sur cette idée de, ben, d'insérer des images du film, des anciens films dans le film.
Elle le fait très très bien. C'est vraiment c'est vrai que ces passages réalité, souvenir, film
parfois,
nouveau et ancien film est génial.
C'est pour ça qu'on a le cul entre deux chaises. Moi, vraiment, j'en reviens au fait que je sais pas si elle nous prend pour des compas. C'est vrai que des fois, c'est tellement appuyé l'idée du flashback que quand on nous montre par exemple Emmanuel Macron, t'as tout de suite capté que c'était l'agent Smith. Mais elle nous montre quand même à côté l'image parallèle de Hugo Weaving dans le Matrix en mode lui, c'est le méchant.
C'est parce qu'elle voulait toucher ses droits, ça, c'est moi.
Mais c'est intéressant de même. Je crois pas que ça a été donné à beaucoup de gens de réexplorer comme ça directement visuellement leur ancien film dans des films, dans des nouveaux films. C'est marrant.
Ouais. Libération. Libération commence avec une citation. Tous les grands faits et les grands personnages de l'histoire universelle adviennent, pour ainsi dire, deux fois. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Explicitement cité, quoique de façon encore plus fragmentaire dans Matrix Resurrections, quatrième volet et remise à zéro d'une histoire à visée universelle, la phrase de Karl Marx sert de programme au nouveau film de Lana Wachowski. Blockbuster cérébral sur le capitalisme numérique porté par une folie formelle et bavarde sans équivalent, fable labyrinthe de nos temps virtuels.
C'est bien écrit.
Le mot farce me convient bien. Je cherchais un véritable mot pour désigner ce film sans être trop péjoratif ni non plus superlatif. Je trouve que farce, ça va bien, quoi.
Ça peut être, ouais. C'est un bon
c'est...
mot.
Farce intelligente. Ouais.
Et je termine avec les derniers qui ont gobé la pullule. Première, qui nous dit « À l'ère des reboots vides de sens, Lana Wachowski se réapproprie son œuvre majeure avec un quatrième Matrix et en fait un véritable manifeste d'une richesse dingue. »
L'écran large aussi qui a kiffé.
Oui, mais là j'en ai pris que 4.
La prochaine fois, oublie pas écran large. On essaye d'avoir des actions chez
eux. Des actions, quoi. Voilà, bon, la pullule, elle n'est pas passée.
Aïe aïe aïe, la pilule de travers. Aïe 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 aïe.
Et je commence avec Bande à part.
Ah, alors eux, ils ont
à fond. Est-ce qu'ils ont fait des fonctions affines?
Non, moi je m'attendais à avoir des termes comme asymptote, mais.
C'est bien. Bande à part.
Un bande à part. Matrix est une ode à la vie. Au sel de l'existence. Au risque qu'il faut accepter de prendre, quitte à tout perdre. Y compris presque 3 heures de sa vie avec Matrix Resurrection.
Oh, les bâtards.
Ah, ils nous ont bien embarqués pour nous écraser comme des grosses merdes.
Ils ont
la
fait
fin.
Comme le film.
Ouais. C'est ce rêve bleu, mais à la fin, dont tombe du tapis, quoi. Ouais.
On petit tapis.
Après, je suis allé voir le magazine des chats, Criticat, pourtant qui est très, le chat est très
le
présent.
Le chat est très présent dans le film, on ne sait pas trop pourquoi.
Il aura certainement sa version à lui.
Il s'appelle Déjà Vu.
Ça va lui plaire normalement. Non, ça n'aura pas plu. Si la réunion d'actrices et d'acteurs venus jouer avec Lana, entre guillemets, a de quoi émouvoir et s'inscrit de manière tout à fait cohérente dans la filmographie récente des Wachowski, on peut aussi regretter qu'elle se déploie au sein d'une forme sans grand éclat.
C'est... Oui. Oui.
Non, mais la c'est forme. Ça qui non, mais la forme, oui.
Mais puis, je suis plus violette, moi, donc j'aime d'un côté comme de l'autre.
Le nouvel Ops. Le sous-texte queer et émancipateur était plus fort dans l'original que dans cette bouillie vaguement post-moderne, laide et opportuniste, signée par Lana seule. Résurrection, inhumation, oui.
Oh là là. Matrix Animations.
C'est la violence.
Si je le vois trop, le mec finir son article et lâcher le micro. Tout ça.
Clair. Tiens,
lâche la souris.
Oh, Matrix Animation, ça fait mal. Hein.
Je finis avec avoir à lire. Matrix Résurrection passe à côté de son objectif. On ressort épuisé de ces presque 3 heures où la question ésotérique ne convainc pas vraiment. Lana Wachowski en fait des tonnes avec un Keanu Reeves qui semble lui-même blasé par cette expérience de cinéma. Quelques jeux de plans et d'images accrochent le spectateur, mais c'est bien peu face à un événement cinématographique de cette envergure.
C'est quoi ésotérique, je comprends pas.
Oh, je pense qu'elle voulait pas dire ce mot-là, mais c'est,
ça faisait bien.
En tout cas, c'est le mot qui est.
C'est un mot compris
dans le texte.
Petite surprise quand même pendant le film, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Keanu Reeves sans barbe et sans cheveux.
Mmh. Bah, je trouve qu'il est mieux. Oui, je l'aime bien quand il est dans le monde réel.
J'avais oublié qu'il savait pas jouer la comédie.
Non, moi, sans barbe et sans cheveux, on dirait mon oncle.
T'as vu, on l'oublie.
J'avais oublié qu'il était mauvais acteur.
Parce qu'il y a eu John Wick où il a pas besoin de faire.
Ah, parce que là, il est.
Non, mais petit point physique, c'est que je trouve que ça lui va pas si bien que ça, les cheveux à la John Wick en fait. Mmh.
Eh ben on l'appelle tout de suite, on lui dit. Écoute,
j'étais très content d'avoir Carrie Anne Moss que j'avais pas vu depuis
Daredevil.
Jessica Jones.
Oui, c'est vrai, Jessica Jones. Ouais. Écoutez, merci Kevin pour la revue de presse. Moi, les deux me vont. Écoute, la pilule, pas la pilule.
Bah, ils ont tous raison.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça qui est.
Mais ils ont
fou.
En même temps tous tort.
C'est incroyable.
Chronique des Schrödinger.
On est dans une loupe de la critique là. C'est difficile c'est de s'en sortir. Mais c'est intéressant en tout cas parce que ben, c'est un film qui propose quand même ben, d'en parler beaucoup derrière et de pouvoir retirer aussi ce qui va pas, ce qui se fait plus, ouais,
c'est un cas d'école quand même.
Oui, voilà, il nous mène à la réflexion, c'était est-ce que c'est pas un peu le but de toute œuvre.
Voilà, et puis si vous n'avez pas aimé Matrix 4, écoutez, il y a toujours le 1, 2, 3 pour vous satisfaire, ils sont toujours là, d'autant plus qu'on va pas rappeler le côté visionnaire des Wachowski, mais c'était quand même les premiers à avoir proposé un univers étendu à travers les jeux vidéo. Donc ça fait extrêmement sens aussi de ce côté-là de voir que Matrix dans leur film est au final une trilogie de jeux vidéo, étant donné qu'à côté ils avaient le Matrix Online, il y avait Enter the Matrix,
et
tout était canon.
Animatrix aussi.
De Animatrix, et que tout était canon. Pour le coup, c'était pas simplement des objets à part. Non, c'était vraiment à prendre en compte dans l'histoire de Matrix, et ça c'est tombé à l'eau avant qu'on ouvre la porte des univers étendus avec Marvel et tout et compagnie. Donc critique ou pas du cinéma, bon ou mauvais film.
Oui, ça reste quand même des réalisatrices qui ont révolutionné le cinéma d'action à la fin des années 90, à une époque où l'actionneur avait déjà quasiment tout proposé. Ouais. Donc bravo elles. Quoi qu'il arrive, elles auront marqué l'histoire de leur film.
Et elles ont fait de l'actionneur métaphysique, ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir avant. Hein,
tout à fait.
Voilà, et puis ils ont rendu hommage à leur famille de Sense8, qui sont pratiquement tous dans le film. Là.
C'est vrai, ça fait plaisir de l'avoir.
Il y a pratiquement les 8, quoi. Je pense qu'il y en a 6 ou 7. 6 ou 7 qui sont là, donc ça fait toujours plaisir comme ça en tant que fan de Sense8 de les voir, même si c'est juste un petit moment, c'était sympa. Voilà, Matrix Resurrections, écoutez, ça c'était notre avis, allez-vous faire le vôtre si vous voulez en cinéma, ça l'aidera bien en plus, mais vous pouvez aussi malheureusement le télécharger illégalement, parce que le problème avec le Matrix, c'est qu'il est sorti sur HBO Max en parallèle, et que comme pour The Snyder Justice League, là, ça ouvre la porte à tous les hackers, et là le film est un des plus piratés en ce moment. Ce qui explique aussi peut-être son flop au cinéma. Et
oui,
n'est-ce pas là aussi.
Là aussi, c'est méta. Vois, hein. Alors c'est qu'en vrai, au box-office, il cartonne, mais si on compte les pirates, quoi.
Ouais.
C'est sûr que c'est pas prévu et qu'elle a elle-même piraté son film.
En vrai, moi, je serais hyper flatté d'être le film le plus piraté, tu vois. Ouais.
Tout ça
mais
fait
pas
partie
d'un
plan.
Non.
Quand t'es réalisateur, certes. Oui, quand t'es producteur,
ouais, t'es producteur, toi, non. Mais toi, peut-être.
Ah, c'est intéressant d'en parler. J'ai encore envie d'en parler avec vous longuement, mais malheureusement, il va falloir déjà se quitter et clore ce match retour.
On se revoit bientôt.
Bientôt. Voilà, c'était le match retour de Matrix Resurrections, actuellement au cinéma, si vous voulez vous faire votre propre avis. En tout cas, le nôtre, il est là, vous le savez. Est-ce que vous êtes plus avancé qu'avant?
Pas vraiment.
Pas vraiment, mais c'est toujours intéressant de démêler cinéma en parlant de ce genre de film.
Chicha.
La semaine prochaine, qu'est-ce que nous allons match retourner, les copains? Il y aura une petite odeur de pâte à pizza, mais aussi de Haribo. Oula, qu'est-ce que c'est que ce délire? La réglisse aux pizzas de Paul Thomas Anderson qui passe sous nos avis et nos critiques après qu'on soit fait l'ABA, l'épisode qui suit. Et oui, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. L'ABA, on sait pas de quoi ça parle, on donne nos attentes, on va voir le film, on a un avis. Et donc forcément, parfois c'est du douille et parfois c'est du pas douille. C'est ça tout l'intérêt de Feta BA.
Et parfois c'est les deux.
Et parfois c'est comme aujourd'hui, c'est du... douille violette. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute si vous voulez entendre nos autres matchs retour, évidemment sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Ou venir tout simplement aussi les découvrir en partage sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Je vous remercie les copains pour toutes vos avis, vos critiques.
Mais merci à toi.
On va retourner au cinéma voir des films autres que Matrix. Là c'est fini, les suites, les reboots, les machins. On lâche l'affaire et on passe à l'auteur un peu.
Totalement d'accord.
Ouais, commencez 2022 comme ça. Encore une très bonne année. Commencez bien.
À tous.
Bonne chance.
Et bonne année.
Bonne année, bonne
salut.
Chance.
Salut.
Bye bye.
Arrivederci.
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 Arrivederci.